bien, nous allons passer le micro à Mathieu. Et Mathieu Roger, la belle orange.
Bonjour à tous. Et donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu du modèle des bureaux d'accompagnement, alors plus spécifiquement dans le champ du spectacle vivant et dans le champ artistique, puisque c'est le secteur dans lequel on travaille. Alors, je vais essayer de partir, moi, de l'exemple de la Belle Orange, qui est un bureau d'accompagnement d'artistes chorégraphiques et de compagnies de danse, qui est basé à Tours, qui a une dimension régionale, puisqu'on travaille avec des compagnies, des artistes qui ont toutes leurs compagnies qui sont basées en région centre, pour essayer d'élargir un peu le débat et de voir un peu quelles problématiques aujourd'hui on peut avoir, qu'en tout cas on se frotte au modèle de ce qu'on appelle encore majoritairement les bureaux de production, et que moi je préfère appeler les bureaux d'accompagnement quand on est dans une logique un peu différente. La Belle Orange, pour retracer, c'est pas l'objet de faire un historique, mais c'est une structure que j'ai créée en 2015, donc il y a maintenant 3 ans, qui part d'un historique personnel, parce que depuis 2011 j'étais installé sur Tours et qu'au fur et à mesure j'avais accompagné une compagnie danse, puis après une deuxième compagnie danse, donc à mi-temps sur 2 compagnies à partir de fin 2012. Et après, dans les années suivantes, il y a plusieurs chorégraphes et compagnies qui avaient besoin d'accompagnement, qui me contactaient. Donc au bout d'un moment, le modèle de salarié d'une compagnie, d'une structure, ou de mis à disposition d'une autre compagnie ou d'une autre structure, et après, au bout d'un moment, si on passe à, évidemment, à 3-4 structures, il y a un modèle, on va dire, d'organisation juridique et salariale qui était à revoir. Donc c'est posé la question pour moi en début 2015, effectivement, de passer sur un autre modèle que celui du simple salarié, en tout cas administrateur ou accompagnant de compagnie. Et évidemment, les questions du modèle de la structure de mutualisation et d'appui.
Et avant de monter la Belle Orange, tu avais quel statut? Tu étais intermittent? Tu étais,
J'étais salarié en CDI au régime général.
D'accord. Voilà.
Donc d'une compagnie, et au fur et à mesure du temps, j'ai été mis à disposition de manière non lucrative à d'autres compagnies. Voilà. Donc sur un partage de temps qui au début se faisait sur demi-temps, et puis après qui était devenu un peu plus complexe, voire trop complexe, d'où la décision et les interrogations après qui ont conduit pour moi à créer la Belle Orange en 2015.
Parce que la mise aux dispositions, tu trouves que c'est complexe dans la mise en œuvre? Parce qu'on en a parlé ce matin, c'est pour ça.
Pas complexe dans la mise en œuvre en soi, puisque finalement, en tout cas, si on est sur le modèle associatif, la mise à disposition non lucrative entre associations, du moment que la convention est bien définie, que les temps de mise à disposition et que la non lucrativité, on va dire, est avérée, ça, on va dire que ça ne donne pas énormément de travail administratif. Après, c'est plus dans le mode de travail et de collaboration entre nous-mêmes en tant que salariés et effectivement les personnes qu'on accompagne. Quel rapport, en tout cas en termes d'indépendance, ou en tout cas de dialogue, on peut avoir entre effectivement notre employeur, on va dire, titulaire sur le contrat, et puis après d'autres personnes, d'autres collaborateurs qu'on peut avoir à côté. Voilà. On va dire qu'on se trouve à des niveaux un peu différents, même si dans les tâches au quotidien, effectivement, on ne l'est pas, mais qui pose la question effectivement de la structure un peu ressources et de mutualisation.
D'accord.
Donc, pour créer effectivement une structure comme la Belle Orange, effectivement, enfin, en tout cas, on se pose 4 grandes interrogations, enfin, en tout cas à mon avis. La première étant celle qui paraît un peu prosaïque et puis un peu bête, mais qui est finalement recouvre toutes les autres, c'est celle de la dénomination, c'est-à-dire comment quel discours on va avoir sur sa propre structure, comment on veut s'appeler. Est-ce qu'on va être une entreprise? Est-ce qu'on va être un bureau de production? Est-ce qu'on va être une coopérative? Est-ce qu'on va être un collectif? Est-ce qu'on va être un regroupement? Voilà. Et pour le coup, le terme de bureau d'accompagnement qui, effectivement, va au-delà de la simple dimension de prestation de services que peut recouvrir, selon moi, l'appellation du bureau de production. Parce que finalement, le bureau de production, on va dire, ne s'engage pas, en tout cas, à travailler sur le long terme. C'est la différence pour moi fondamentale entre les structures qui travaillent sur l'accompagnement. Donc l'accompagnement, on a la dimension du moyen terme et du long terme, contrairement à celui de la production, qui fonctionne dans une logique, on va dire, plutôt de projet. Donc c'est-à-dire qu'après, on peut monter un projet, finir un projet, puis se quitter là-dessus.
Je t'interromps, parce que moi, dans les recherches que j'ai faites par rapport au bureau de production, j'ai vu que c'était souvent une contractualisation entre un bureau de prod qui va travailler avec un lieu ou deux lieux et qui vont faire des apports sur une durée dans le temps, sur un nombre de spectacles, un engagement comme ça. Donc il y a vraiment une forme de mutualisation. Mmh. Séverine, pour elle, c'est pas du tout ça. Après, je veux bien croire qu'il y ait des déformations du projet initial pour l'amener vers un truc purement spéculatif et de vente de spectacles basiques, quoi. Mais à la base, le projet, c'est plutôt d'associer un bureau de prod avec des lieux, de manière à avoir justement cette activité-là avec des scènes nationales. D'ailleurs, ça se fait beaucoup plus dans le théâtre et la danse que dans la musique, par exemple.
Oui, tout à fait. Bon, on est sur effectivement d'autres, on va dire, des temporalités, on va dire, au niveau de la création, qui sont un petit peu différentes.
Et des coûts aussi, qui sont souvent beaucoup plus importants.
Mais donc effectivement, pour moi, on va dire en tout cas, la revendication et l'appellation du terme de bureau d'accompagnement est paru assez logique et assez évidente. Et donc après, c'est plutôt à partir de là qu'on a travaillé à la création de la structure. Et après, effectivement, on se pose la question du format juridique, effectivement. Parce que, effectivement, si on regarde le champ des bureaux de production ou des bureaux d'accompagnement, pour le coup, parce que je vais prendre ce terme maintenant désormais, parce que c'est celui qui me concerne, mais artistique, en France, on observe que la grande majorité sont en association, de par, je pense, la facilité qu'on a à effectivement démarrer une activité en passant par ce format juridique-là. Il y en a quelques-uns qui sont en SARL, et puis quelques-uns aussi qui sont dans le modèle coopératif type SCOP ou SCIC. Voilà. Donc, moi, en fait, la réponse était un peu déjà donnée. Enfin, je vais le dire un peu clairement, c'est qu'il y avait une opportunité, on va dire, purement économique. C'est-à-dire qu'au démarrage de la création de la Belle Orange, j'avais la possibilité de bénéficier d'un capasso de la part de la région centre qui soutenait le projet. Donc en fait, on va dire que la réponse m'était un peu donnée avant l'interrogation. C'est-à-dire qu'il y avait clairement, je le dis clairement, une opportunité économique. Donc je suis parti sur le format associatif dès le départ pour pouvoir bénéficier en tout cas de cette manne financière qui était réduite, mais qui me permettait en fait... on va dire d'être plus à l'aise économiquement au lancement de l'activité, au fonctionnement de la structure.
Si jamais tu n'avais pas eu le capasso, tu aurais préféré quel statut juridique?
C'est difficile, je pense qu'il faut même renverser la question. Et si j'avais pas eu le capasso, est-ce que j'aurais pu démarrer en fait l'activité de la structure? C'est pas si évident que ça répond. Je suis pas sûr en fait. J'aurais certainement attendu plus longtemps. Mais je pense que le format associatif, quand même, de par la facilité, ça procure, surtout qu'en plus on peut avoir une gouvernance coopérative, un peu à deux types coopératives, rien qu'en remodelant et en modulant un peu le fonctionnement des les statuts de l'association en fait. Donc déjà on peut intégrer déjà cette dominante-là. Je pense, franchement je sais pas, mais je pense que je serais quand même peut-être parti sur le format associatif de par la facilité et la rapidité peut-être. Mais,
de toute façon, l'accompagnement en tant que tel, c'est une activité qui dépend du régime général, qui peut pas du tout rentrer dans le cadre de l'intermittence, puisqu'il n'y a pas d'action. Enfin, il n'y a pas de métier d'accompagnement dans les métiers de l'intermittence dans les années 80-90.
Bah, théoriquement, ça pose.
Théoriquement, on est bien d'accord.
Ça pose la question de la permittence, hein, entre guillemets. Bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, effectivement, sont en régime d'intermittent, dans des missions de chargé d'administration, chargé de production, chargé de diffusion, même si, effectivement, tout ça est réglementé normalement pour des activités, on va dire, permanentes et en continu. Normalement, c'est pas légal, quoi. Donc voilà, donc ça pour le coup ça c'était assez clair. Du moment qu'on s'inscrit dans une logique de long terme et d'activité permanente, pour moi, en tout cas le régime général en CDI s'imposait. Quoi.
Et avant de continuer sur l'organisation même de ton travail avec les autres structures, enfin tout ton déroulé qui est là, je me permets de t'interrompre pour savoir le coup de pouce du capasso qui dure 3 ans. C'est ça, le capasso?
Oui, c'est ça.
3 ans, et avec une réduction progressive du montant attribué par la région chaque année. Est-ce que ce coup de pouce t'a permis, au même titre qu'une aide à la création d'entreprise, à développer ton panel de clients, de partenaires ou de gens avec qui tu travailles pour justement stabiliser ton activité financière?
Bah, disons que ça, alors déjà, sur la période de 3 ans, la manne, on va dire, annuelle, elle baisse pas. Elle est répartie maintenant, c'est en quatre quarts, donc on perçoit la même chose au fil des ans. C'est après, si on fait une demande de renouvellement, que là, effectivement, normalement, le montant est revu normalement quasi systématiquement et automatiquement à la baisse, si on obtient un renouvellement, d'ailleurs, ce qui n'est pas acquis à l'avance. Donc, disons que ça a permis, en prenant... Moi, je donne... parce qu'aujourd'hui, au début, quand j'ai créé la Belle Orange, j'étais seul permanent. Aujourd'hui, on est 2 salariés permanents. En CDI au régime général tous les deux, ça représente 1/3 de notre de notre coût, du coût de notre poste en termes de salaire, la prise en charge des capassos, donc c'est quand même pas négligeable, un tiers. Clairement, ça a permis, en fait, ça a permis d'avoir les coûts des franches dans le choix des artistes qu'on voulait continuer, que moi je voulais continuer d'accompagner, et ceux qu'on a commencé à accompagner et qui auraient peut-être, si effectivement il avait fallu chercher une manne financière un peu plus conséquente, parce que si on n'avait pas eu si j'avais pas eu en tout cas l'apport économique du Capasso, j'aurais peut-être, si vraiment j'avais voulu commencer à ce moment-là, été obligé de partir non pas d'un choix artistique, mais d'un choix économique en fonction des capacités économiques d'une compagnie. Ce qui pour l'instant, j'ai le luxe de ne pas être obligé de choisir effectivement les artistes et les compagnies qu'on accompagne en fonction de leurs moyens économiques, de par voilà, l'organisation que
je te laisse.
Il n'y a pas de problème. Et donc effectivement, à partir après effectivement, les questions de la dénomination et de la structuration juridique, se pose la question du champ d'action et des disciplines du secteur dans lequel on s'inscrit. Donc de fait, bah, logiquement, mon expertise et mon parcours professionnel étaient ensuite la danse contemporaine. Et puis en plus, le but était de continuer d'accompagner aussi les chorégraphes que j'accompagnais déjà. Donc pour le coup, le champ disciplinaire, on va dire, était assez circonscrit, c'était la danse. Les chorégraphes que j'accompagnais déjà ou qui nous sollicitaient étaient tous basés en région centre. Il y avait une dimension dans mon travail régional qui était, bon, on va dire, mon territoire préférentiel. Donc effectivement, l'échelle régionale, on va dire, était aussi s'imposer un peu de soi. C'est un peu ce que j'évoquais aussi, c'est la question de est-ce qu'on s'inscrit sur le court terme ou le long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'associe, on collabore avec des compagnies et des artistes pour mener à bien un projet, c'est-à-dire un projet généralement, on va dire, si on part dans la danse ou dans les arts de la scène, un projet de création et après une diffusion sur plateau ou hors plateau, avec, voilà, avec une création, une production, une fin, une diffusion et puis ça s'arrête. Ou est-ce que, dès le départ, on fixe qu'en fait, on est dans une logique à beaucoup plus long terme, c'est-à-dire de... alors après, il y en a certains qui pourront dire de développement de carrière, ou d'accompagnement de carrière, en tout cas de l'artiste, en tout cas d'accompagnement, de développement de sa structure, de sa compagnie, ou pas, s'il n'en a pas. Mais en tout cas, de l'accompagner jusqu'à ce que... voilà, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et ça, effectivement, la logique, c'était plutôt d'accompagner les artistes qui voulaient, effectivement, collaborer sur le long terme avec moi et avec nous pour le coup maintenant aujourd'hui.
Et ça veut dire que jusqu'à l'autonomisation complète de l'artiste ou de son projet, ou c'est plus un accompagnement sur les méthodologies
Sur les deux. Oui, les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on travaille effectivement sur le montage de production, l'accompagnement des créations et des projets artistiques sous toutes ses formes, hein, que ce soit de sensibilisation ou de... ou de création, et en même temps, effectivement, il y a une mission de conseil qui est présente au quotidien, voire même des fois, on fait un peu le papa et la maman, si je peux, c'est, des fois, ça va jusque-là, quoi, donc ça rejoint les deux aspects.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, par rapport à des parallèles dans d'autres métiers ou dans d'autres secteurs culturels, ça ressemble un peu à une forme de fonction ressource, de management de projets et d'artistes, il y a plusieurs...
Complètement, vraiment, on est vraiment sur le champ du développement, vraiment dans sa globalité, quoi, qui passe, comme j'ai détaillé un peu tout à l'heure, par l'administration, la prod, la DIF, la com, même si tout est lié, et que je trouve que c'est des fois un peu illusoire de séparer toutes ces un peu étapes-là, jusqu'au conseil, jusqu'au vraiment la stratégie, voilà. Donc oui, effectivement, c'est vraiment, on pense ça de manière plus globale et plus au long terme, et justement... Après, qu'est-ce qui nous permet de penser ça? C'est parce qu'on mutualise et qu'on a une organisation qui nous le permet. Voilà. D'accord. Et ça, donc ça, avant de passer justement concrètement comment ça marche, il y a aussi une dernière question qu'on se pose, c'est quels sont le champ des compétences qu'on a à mettre à disposition de nos collaborateurs. C'est-à-dire moi, quelles étaient mes compétences à la base, quelles sont celles aussi aujourd'hui de Marie Blaise, qui est ma collègue à la Belle Orange, et qu'est-ce qu'on peut proposer comme type d'accompagnement. Pour le coup, aujourd'hui, nos compétences se complètent bien, donc effectivement, pour le coup, on peut être sur ce plan vraiment très élargi, qui va de l'administration à la diffusion jusqu'au conseil et la stratégie de développement. Une fois qu'on a posé toutes ces questions et qu'on a un temps soit peu lancé des débuts de réponse, se pose évidemment la question du modèle économique et du fonctionnement, on va dire, concret de ce regroupement, parce que pour le coup, ça va être un peu différent que je pense Arnaud Fièvre, qui a présenté le capsule collectif ce matin, vraiment qui ont une gouvernance collective, ils l'affirment, ils se posent la question du, Et d'ailleurs, ils se dédaignent, le collectif. Il y a Elsa aussi qui parlera tout à l'heure de la grande régie, effectivement, qui revendique cette notion de collectif-là, avec un mode d'organisation, pour le coup, différent. Elle vous en parlera. Mais nous, effectivement, pour le coup, à l'heure d'aujourd'hui, on peut pas parler de collectif pour la Belle Orange. C'est un bureau d'accompagnement qui regroupe autour de lui des compagnies, des artistes, dont les projets peuvent se croiser ou non, peuvent se rencontrer ou non. Voilà. Aujourd'hui, ce serait illusoire de parler à l'heure actuelle de coopérative hein, ou de collectif. Voilà, je préfère quand même être clair hein, pour pas non plus. Et donc, une fois qu'on a posé ces questions-là, quel modèle économique on met en place? Alors, nous, on a choisi le mode de contractualisation, et on va dire le mode de la convention entre les compagnies, les artistes et puis la Belle Orange. C'est-à-dire qu'on a des conventions annuelles avec les artistes et les compagnies avec lesquelles on collabore. Et ces conventions sont assez complètes. Déjà, il y a un préambule qui récapitule un peu les valeurs partagées, on va dire, sur quels sont les champs d'engagement qui sont les nôtres. Alors pour le coup, pour la Belle Orange, c'est le développement du champ chorégraphique en région centre et puis au-delà, on va dire. Et après, effectivement, ces conventions-là, alors pour le coup, pour les questions de confidentialité, je ne pouvais pas non plus vous repasser et vous afficher aujourd'hui, présenter in extenso les conventions qu'on a avec les compagnies, mais si ça intéresse certains d'entre vous, que je leur communique un modèle juste pour voir effectivement comment ça peut marcher ou pour voir à quoi ça ressemble justement une convention, on va dire, de collaboration annuelle du type de celle qu'on a. C'est des choses que enfin, vous pouvez prendre contact avec moi de manière...
Personnellement, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que justement, par rapport à ton organisation de travail, avec la relation que tu peux avoir avec chacun des partenaires au sein du bureau, comment tu ça conditionne ton volume d'activité pour chacun, l'investissement que tu donnes. J'imagine aussi que c'est jusqu'où tu vas dans l'accompagnement, qui est forcément et obligatoirement une logique d'évolutivité ou d'évolution en fonction du projet, etc. Donc c'est des choses comme ça sur lesquelles je trouve que c'est hyper intéressant cette convention.
On va dire qu'il y a cinq grands aspects qui sont définis par les conventions qu'on passe. Comme tu le disais d'abord, le plus important évidemment sur les quelles missions et quel type d'accompagnement on propose à cette compagnie ou à cet artiste. C'est-à-dire, voilà, administration. Est-ce qu'on peut faire un accompagnement en administration et ou un accompagnement en production et ou en diffusion et ou en com et ou en conseil, on va dire, en stratégie de développement. Bah, sachant qu'on peut grossièrement, on va dire, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu des fois illusoire de couper tout ça, grosso modo, on est quand même sur ces types de missions-là. Donc effectivement, alors ça, par contre, pour le coup, c'est détaillé, hein, c'est administration. Alors, pour le coup, nous, les seules choses qu'on externalise à la Belle Orange, c'est la tenue de la comptabilité, des comptes de résultats, et puis on va dire les déclarations salariales, l'édition des fiches de paie. Voilà, ça, c'est vraiment les seules choses, on va dire, administrativement qu'on ne fait pas pour une question de temps, pour le coup. Tu parlais déjà de la question du temps. Mais après, le reste, tout est détaillé, donc ça veut dire que voilà, si on fait le suivi des budgets de production, voilà, c'est vraiment, on détaille tout. C'est-à-dire chaque tâche est détaillée, parce que, alors je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, effectivement, qui voudront se lancer dans des initiatives de ce genre-là, mais. Si on ne détaille pas tout dès le départ, en fait, très vite, ça peut poser des problèmes en termes de collaboration. Hein, on s'était mis d'accord là-dessus. Ah, maintenant, mais si on s'était dit qu'on faisait ça, bah, c'est vraiment à chaque fois capital que tout soit mis noir sur blanc et de manière vraiment très précise, vraiment exhaustive, en fait, hein, au niveau des tâches.
C'est vraiment un contrat, en fait.
C'est vraiment un contrat.
Détailler les différentes...
C'est vraiment un contrat. D'ailleurs, en droit, la notion de convention et de contrat est la même. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez marqué convention... sur un papier, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose que contrat. Mmh. Et la deuxième, effectivement, notion qui est vraiment définie de manière très très précise, c'est la question du temps de travail qui est à mes dispositions. C'est-à-dire quel temps de travail hebdomadaire des salariés de la Belle Orange sera mis à disposition pour l'accompagner, pour l'artiste, pour remplir les missions qui ont été définies. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, sur les conventions de manière très concrète, vous avez un temps de travail hebdomadaire ou mensuel de ma part et où de ma collègue Marie Blaise, qui est plus elle sur l'aspect développement territorial et chapeautage des projets de sensibilisation artistique, qui est défini. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir des conventions, effectivement, on est mis à disposition 7 heures par semaine chacun, ou ça peut être des conventions, mais on est mis à disposition 10 heures par mois, ou alors des fois 2 heures par jour, ça dépend du type de mission et du volume d'accompagnement dont la compagnie a besoin, ou, je dire malheureusement des fois aussi, même s'il y a des logiques de solidarité que je vais évoquer après, pour que la compagnie peut aussi s'offrir. C'est-à-dire que si la compagnie a zéro moyen, évidemment, on ne peut pas travailler, on peut pas travailler toute la semaine, 3 heures par jour, par bref, si effectivement il n'y a pas une rémunération, au moins un minimal derrière qui correspond aux missions. La troisième notion importante qui est à définir, c'est la durée de l'accompagnement. Alors pour le coup, nous, comme je vous disais en préambule, Label Orange, on s'inscrit sur le long terme. Donc on est parti sur des conventions annuelles qui sont la reconduction tacite. Voilà. Donc déjà, la reconduction tacite pose déjà d'emblée le fait qu'on s'inscrit plus que sur juste un projet ou sur une année ou 6 mois de production sur un projet. Évidemment, on donne un préavis pour effectivement, si une des deux parties veut cesser... C'est la collaboration, un préavis voilà, qui est généralement de l'ordre d'entre 3 à 6 mois ou un peu plus, ça dépend des cas, ça dépend des choses. Mais après, évidemment, on ne peut pas non plus être pieds et poings liés, même si on s'inscrit sur le long terme, effectivement, on va pas signer des conventions de 6 ans. Et puis, si effectivement, en face, l'artiste ou la compagnie n'est pas contente du travail qui est fourni, ils ne vont pas être pieds et poings liés pendant 6 ans. Enfin, il y a aussi une logique d'honnêteté et puis d'éthique de travail, et vice versa dans l'autre sens aussi. Voilà, quand ça nous arrive à une ou deux reprises effectivement de mettre fin à des collaborations avec des artistes qu'on accompagnait de manière permanente. Alors pour le coup, la première fois c'était pour des questions de planning et de disposition personnelle de l'artiste, donc on va dire que la qualité de la collaboration rentrait pas en jeu. Mais récemment effectivement on a arrêté de travailler pour une compagnie parce qu'on n'était pas d'accord sur les objectifs de développement, sur la vision et le discours qu'il fallait avoir sur le travail artistique. Et bien effectivement, la collaboration cesse au bout de la période de préavis, ce qui est normal.
Avec obligation de moyens, obligation de résultats dans la convention ?
On va dire que les obligations... Alors comment on pourrait dire ça, obligation de résultats ? Forcément qu'il y a une obligation de résultats à travers les tâches qui sont adressées, donc il faut les remplir, il faut les faire. Ça demande des temps de travail en commun. Et notamment, on fait un gros bilan au milieu de chaque année. Mais il y a qu'il y a des temps de travail communs qui peuvent être de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle, toutes les 2 semaines, qui sont faits pour vérifier que chaque partie, on va dire, remplit ses obligations l'un envers l'autre. Voilà. Pas dans une logique, évidemment, de confiance, parce que c'est ça qui sous-tend aussi l'accompagnement qu'on a avec les artistes, mais bien sûr. Après, logique de résultat, on va dire, si c'est pour répondre de manière un peu plus précise à ta question, c'est dans les conventions, il n'y a pas marqué Label Orange accompagne la diffusion de cette compagnie et devra assurer 25 dates sur l'année prochaine, par exemple. Voilà. Il n'y a pas ce type d'indicateurs enfin, qui sont dits. Voilà. Après, hors la diffusion, les tâches sont listées, les tâches sont exécutées. Donc évidemment, quand on rentre effectivement dans une logique de résultat, enfin, en tout cas dans une logique de réalisation des missions qu'on s'est données, on va dire, de manière conjointe. Okay. Le quatrième aspect qui est défini, c'est évidemment quels outils de communication on va utiliser entre nous. Ça peut être aussi bien la communication interne, j'en parlais, est-ce qu'on se fait effectivement des rendez-vous de travail commun de manière régulière, toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois Donc voilà, et quel outil on peut utiliser. Donc ça peut être des outils informatiques, hein. Vous connaissez des fois des plateformes un peu collaboratives comme sur en ligne, comme Trello, comme le Slack. Il y a plein de choses qui existent et qui sont utilisées, définies, on va dire, en fonction des envies et puis des habitudes de chaque artiste. On va dire, voilà, c'est vraiment modulé en fonction, voilà, il n'y a pas une obligation d'utiliser Trello de manière systématique, ou utiliser Slack de manière systématique, ou d'imposer une réunion toujours de manière systématique ce jour-là à telle heure, quoi. Même si la régularité, on va dire, des rendez-vous de travail commun me semble vraiment indispensable. Et puis la cinquième, effectivement, question qui doit être éclaircie et précisée, c'est évidemment la question de la rémunération. La rémunération de la compagnie ou de l'artiste envers la Label Orange pour effectivement les missions qui sont réalisées. Donc ça, en fait, l'avantage, c'est aussi l'avantage d'avoir plusieurs artistes et compagnies qui sont réunis autour de la Label Orange, c'est que, évidemment, vous avez sans doute, on en a parlé déjà un peu tout à l'heure, et sans doute dû parler ce matin, c'est que la mutualisation permet des logiques de solidarité qui ne pourraient pas être à l'œuvre si effectivement on travaillait de manière directe en tant que prestataire de service, de manière unilatérale. C'est-à-dire que, par exemple, si nous on accompagne aujourd'hui 6 artistes chorégraphiques en permanence à l'année, S'il y a une compagnie qui à un moment va avoir un défaut de trésorerie, on va dire pendant 6 mois, on va dire bah, l'apport qui vient un peu de toutes parts, que ce soit les aides à l'emploi qu'on a, parce que finalement ce sont aujourd'hui les seules subventions publiques, on ne leur demande pas d'autres subventions que les CAPASSO. C'était aussi un choix, je pourrais aussi en revenir dessus, pourquoi on ne demande pas d'autres subventions. Et les apports, en tout cas, de chaque compagnie, nous permettent bah, d'autoriser des délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à 6 mois, ou des fois plus, si effectivement la compagnie est en, on va dire, des difficultés financières. Donc voilà, je pense que c'est aussi des logiques de solidarité qui sont en œuvre et qui sont permises par le fait bah, effectivement, qu'on est regroupé et qu'il y a effectivement plusieurs sources de revenus économiques, en tout cas pour la structure, pour la Belle Orange. Et en même temps, ça permet aussi, là je vais repartir un peu plus du point de vue du salarié aussi, c'était aussi une volonté de ma part quand j'ai créé la Belle Orange, et que ça permet aussi une certaine indépendance. Bien sûr, on n'a pas la même indépendance quand on est à la tête ou quand on dirige, pilote une structure avec ses collègues salariés envers nos autres collaborateurs, comme quand on est salarié direct d'une seule structure pour une seule structure. Enfin, on va dire les questions de hiérarchie, et je ne vais pas dire de suggestion parce qu'on ne va pas parler aller jusque-là, mais effectivement, voilà, il y a une question d'indépendance qui, je pense, qui peut être appréciée, en tout cas, nous, qu'on apprécie à ce niveau-là. Et donc, ça, pour revenir un peu sur la question purement économique, ben voilà, on part. Il y a 2 modes de rémunération. Ça peut être des parts forfaitaires pour toutes les missions qui sont accompagnées. Par exemple, si il y a un accompagnement sur l'administration, on peut décider d'avoir une part forfaitaire à l'année qui correspond à tant de milliers d'euros. Voilà. Et effectivement, pour certaines compagnies, effectivement, notamment pour celles où on travaille à la diffusion, mais ça peut être ne pas obligatoire. Il y a des compagnies pour lesquelles la diffusion, pour lesquelles on ne touche pas de communication de part variable, mais pour certains accompagnements qu'on a, on inclut aussi une part variable sur l'accompagnement de certains projets. Par exemple, il y a des compagnies pour lesquelles, parce que leurs moyens économiques aussi sont faibles, c'est aussi dans cette logique-là. Bah, évidemment, la part forfaitaire annuelle qui va être payée ne va pas correspondre au prix que normalement nous devrions facturer, parce qu'il y a un coût de. Voilà, il y a aussi, quand on crée une structure aussi comme ça, un coût de revient journalier à calculer, voilà, minimal pour au moins pouvoir assurer le bouclage du budget et du fonctionnement à la fin de l'année. Si effectivement la compagnie n'a pas les moyens économiques de payer effectivement le coût du travail même, on va dire journalier, on peut établir des forfaits annuels qui sont beaucoup plus bas. Et par contre, se mettre d'accord sur des pourcentages, sur les projets qui sont portés et dégagés et trouvés par la Belle Orange, que ce soit des projets de sensibilisation artistique ou que ce soit sur des diffusions, par exemple, des diffusions de dates. Voilà, où on peut prendre, par exemple, si on se met d'accord, 5% à chaque date qui est trouvée, qui va en plus à la Belle Orange pour compléter un apport qui, normalement, est un peu sous-évalué par rapport à ce qu'on normalement aurait choisi de se mettre d'accord. Voilà. Donc, en fonction des conventions qu'on a avec les compagnies, effectivement, ça peut être une base forfaitaire annuelle, voilà, mais qui est réglée tous les trimestres, et ou, pour le coup, avec potentiellement une part variable en
Et
fonction
cette
des.
part variable est calculée du genre bah, 10 heures d'administration, ça vaut tant. Sur le projet-là, tu as besoin d'un coup de pouce supplémentaire sur de l'administration ou sur de la com, ça vaut tant. Et voilà, je te le refacture en plus, c'est ça?
Cette part variable, on va dire pour tout ce qui est mission d'accompagnement en administration, il n'y aura jamais de part variable. On va dire, je considère que ça, c'est vraiment des choses qui sont, on va dire, du fonctionnement qui est incompressible. Après, les parts variables qu'on pourrait avoir, c'est comme je disais, c'est sur effectivement des missions de diffusion ou des missions de montage de projet, c'est-à-dire de montage de projet, de sensibilisation, voilà, ou là, effectivement, ou alors des demandes de subventions pour des créations, par exemple. En termes de production déléguée, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important à souligner, et puis qui me tenait à cœur quand j'ai créé la Belle Orange, c'est que la Belle Orange permet aussi d'accompagner en production déléguée, c'est-à-dire qu'on a des structures porteuses, on va dire administrativement, de chorégraphes qui n'ont pas leur propre compagnie. Parce qu'aujourd'hui, on va bien, enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, et logique de mutualisation qu'on peut avoir les uns et les autres, ça répond au fait que le modèle de la. En tout cas, moi, je parle pour le spectacle vivant et les arts de la scène. Le modèle de la compagnie seule de son côté, qui vit en isolat sur son territoire, enfin, dans 10 ans, il n'existe plus. Enfin, il n'y aura plus que les
C'est ça.
compagnies, on va dire, à dimension nationale ou internationale. Et voilà, il y a des logiques de regroupement aussi qui sont de par cet état de fait.
C'est ce qu'on a pointé ce matin sur le fait que le concept de compagnie est en train de changer complètement. Et effectivement, il y aura vraisemblablement plus que des grosses compagnies qui ont
Voilà.
déjà une assise, une base, mais
Voilà.
après.
Donc, alors après, c'est est-ce qu'on subit cette évolution-là en se retrouvant au pied du mur un jour en se disant ben, on n'a plus les moyens d'exister, Où est-ce qu'on devance en proposant une mutualisation qui est intelligente et qui part du projet artistique? Parce que je disais, de toutes les interrogations que j'ai posées au début, il faut se les poser parce qu'on part du projet artistique et après on voit si un modèle d'organisation et de mutualisation est possible ou pas. L'inverse, c'est pas possible. Si on veut mutualiser pour mutualiser, ça marchera jamais. Voire ça marchera 1 ou 2 ans et ça se cassera la figure. Enfin voilà, on part pas d'un modèle de mutualisation économique pour après voir si est-ce qu'on peut s'organiser, on peut monter des projets artistiques ensemble. C'est pas le chemin qu'il faut adopter. Et pour finir, effectivement, ce que je voulais dire, les structures comme Label Orange permettent des artistes qui n'ont pas de compagnie. Alors pour le coup, nous aujourd'hui, c'est des chorégraphes comme Cécilia Ribaud ou Hélène Rocheteau, d'être portés intégralement en production déléguée, c'est-à-dire d'être déchargés de toutes les missions autres que leur mission de création artistique, et de pas les engager pour leur premier projet dans une logique de création de structure qui est chronophage et qui peut se faire au détriment du temps qu'elles peuvent mettre et de la qualité qu'elles peuvent mettre en faveur au service de leur projet artistique. Voilà. Donc maintenant, cela étant dit, se pose la question, je disais, effectivement aujourd'hui on est une association, on entame quand même une réflexion parce qu'effectivement il y a des logiques de solidarité et on va dire de gouvernance partagée aussi, parce que c'est voilà, dans le mode de fonctionnement, schématiquement, pour tout ce qui est des questions d'ordre de décision économique et tout ça, on va dire qu'il y a une concertation avec les collaborateurs, les artistes, les compagnies, et on va dire que ça va être nous, salariés, qui vont avoir le fin mot de décision, parce que c'est nous qui portons la structure même du bureau d'accompagnement. Et en schématisant globalement pour tout ce qui est question d'ordre de décision, de direction artistique et tout ça, il y a des débats et des débats qu'on a entre nous. Et pour le coup, de manière fort logique, ce sont les chefs de projet artistique et les chorégraphes qui ont toujours le dernier mot. Voilà. Mais après, on se dit, est-ce qu'on ne veut pas aller plus loin? Parce que cette dynamique de solidarité-là, de mutualisation, interroger le modèle de coopératif et d'évolution vers une coopérative, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse, qui m'a toujours intéressé, et puis qui me semble un peu évident de par l'historique même de la structure et puis de la démarche qui est la nôtre. Donc je ne sais pas si ce matin ça a été évoqué ou pas par Arnaud, mais j'avais proposé, on a mis en place un groupe de réflexion avec le Capsule Collectif et pour le coup nos camarades de la Grande Régie sur cette question de est-ce que réfléchir ensemble sur est-ce que à court ou moyen terme on n'a pas vocation à transformer nos structures qui sont différentes, hein, collectif, regroupement, bureau d'accompagnement, vers une structuration juridique en coopérative, donc type SICUSCOP.
SICUSCOP, oui.
Voilà, et donc ça c'est quelque chose, je pense, vers lequel, enfin en tout cas déjà qu'on réfléchit, qui est à l'étude, qui amène des débats au sein de nos propres structures, et aussi en tant que, qui nous questionne nous en tant que dirigeant, en tout cas qu'un impulseur de réflexion, et voilà, qui est posé, et qui, je pense, sous 2-3 ans, on aura trouvé, enfin en tout cas on sera posé, je pense, les bonnes questions, et on aura décidé ou non d'évoluer vers ce format-là qui me semble quand même assez intéressant.
D'un point de vue purement pragmatique, tu as plusieurs structures chorégraphiques avec lesquelles tu travailles. Comment tu gères les possibilités de concurrence en interne,
Oui, ça c'est vrai que c'est un point très important. Merci de poser la question, parce que je n'ai pas du tout évoqué. C'est qu'évidemment, quand on est dans le bureau d'accompagnement et qu'on accompagne plusieurs compagnies, plusieurs artistes, notamment dans une seule discipline, puisque pour le coup, moi je suis vraiment que dans le champ de la danse contemporaine. Je ne vais pas vous dresser la cartographie du champ de la diffusion de la danse contemporaine en région ou en France, mais on va dire qu'il est hyper restreint. Donc évidemment, il va y avoir des logiques de concurrence entre les artistes et les compagnies. Donc il y a aussi un regard attentif sur les artistes qu'on accompagne. De fait, ils vont être en concurrence sur le portage, sur des appels à projets, pareil, sur des candidatures pour des projets de sensibilisation ou d'action culturelle artistique. De fait, ils vont être forcément en concurrence au sein de leur propre réseau de la diffusion de la danse contemporaine. On accompagne des artistes qui ont des esthétiques d'écriture extrêmement différentes. C'est quelque chose, voilà, quand on est effectivement contacté avec Marie Bess par d'autres artistes. Alors pour le coup, on ne se dirige pas trop vers... on est plus dans une logique aujourd'hui de se dire comment on peut accompagner mieux les artistes qu'on accompagne déjà. Je crois qu'on n'a jamais assez de temps, on va dire, on n'a jamais assez de moyens pour les accompagner. Mais effectivement, au début de la création de la Belle Orange, j'ai fait attention, effectivement, d'accompagner des chorégraphes qui ont des écritures vraiment extrêmement différentes et qui, pour le coup, sont moins en concurrence. Non pas du tout, mais moins en concurrence. Entre un Francis Pisson de la compagnie Marouchka, qui est une écriture chorégraphique extrêmement conceptuelle, Margane Maillot de la compagnie Est, elle, qui a une approche très théâtrale de la danse, et puis Eva Klimakova de la compagnie Osetka, qui fait vraiment de la danse pour la danse, avec une visée sur le mouvement perpétuel et très esthétique. Effectivement, leurs pièces ne plairont pas aux mêmes programmateurs. Et après, tout notre travail, c'est nous de les insérer dans les bons réseaux de production qui correspondent à leur de production et diffusion, qui correspondent à leurs esthétiques.
Et souvent, ce qui se passe, c'est dans la plupart des actions de coopération, de mutualisation, on voit au niveau des structures qui sont adhérentes, qui font partie, il y a cette notion de concurrence. On en a parlé ce matin avec ce qu'on appelle la compétition, la coopération et compétition. Donc il y a cet aspect où on est en concurrence, mais en même temps, la force du collectif ou du groupement ou du fait qu'on arrive à dépasser ces concurrences pour aller créer des choses qui vont être plus intéressantes en termes de programmation. Est-ce qu'il y a des actions comme ça qui sont menées entre les compagnies, ou est-ce que c'est vraiment chacun sur son pré carré avec le bureau administratif d'accompagnement artistique, pardon, qui est le lien, en fait, le liant professionnel?
Ouais. Bah, c'est justement ça qui était intéressant. C'était que moi, évidemment, j'avais tout de suite l'idée, effectivement, que de créer des passerelles au niveau des projets entre les artistes et les compagnies. Alors, de fait, parce que certains se connaissent déjà au préalable. Des fois, certains peuvent avoir déjà travaillé ensemble. Et par exemple, on mène sur des projets, par exemple, comme les résidences Mission Danse, qu'on est la seule structure à porter en région centre, ce type de projet-là, donc qui se déroule au sein des collèges, et c'est un dispositif qui est cofinancé par la DRAC et les départements, pour le coup, dans trois départements de la région centre, en Cher, Loire-et-Cher et Indre-et-Loire. Donc effectivement, là, c'est un temps, par exemple, de présence artistique pendant 4 mois non-stop dans un établissement scolaire. Et là, parce que nous, on a un regroupement d'artistes et de compagnies, on peut monter ce genre de projet-là. On peut proposer des artistes qui conviendront au projet artistique que veulent développer le corps enseignant avec leurs élèves. Donc voilà, on a porté une résidence Mission Danse au Collège Beaulieu à Joué-lès-Tours il y a 2 ans, avec certains chorégraphes. Cette année, on en a porté 2, à Romain Rantin et à Bourgueil, avec d'autres chorégraphes. Et puis l'année prochaine, on en portera une à Château-Renaud avec d'autres chorégraphes.
Mais ça, c'est sur l'éducation artistique et culturelle. C'est pas vraiment, c'est de la création, mais c'est pas sur la création qui va pouvoir aller diffuser sur des scènes nationales, etc. Donc il y a quand même des
ça, effectivement, c'est pour le volet... Non, la diffusion partagée est aussi quelque chose qu'on travaille.
D'accord.
Parce que je me suis rendu compte que, de plus en plus, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est des fois plus facile à vendre, entre guillemets, une soirée partagée avec plusieurs artistes, que de diffuser une seule proposition à un seul artiste.
Parce que tu vois un plateau avec différents spectacles, c'est ça?
Oui, c'est ça, okay. Tout à fait. Et ça permet de rejoindre l'argumentaire, et une des valeurs qui est celle de la Belle Orange, c'est de faire état et de rendre plus visible la diversité des esthétiques dans le champ de la danse. Voilà. C'est aussi... Donc on a fait une soirée partagée... le 10 novembre de 2017 à la Pléiade avec plusieurs artistes de la Belle Orange. On fera un temps partagé sur un week-end aussi à la scène nationale d'Orléans là, en décembre, début décembre. Il y aura une soirée partagée entre 2 chorégraphes de la Belle Orange qui présenteront chacune leur solo à Métrop au début de l'année prochaine. Donc effectivement, le champ de la diffusion permet aussi certains croisements. Alors là, après, il ne s'agit pas non plus, c'est comme je parlais aussi de mutualiser.